C'est l'heure du LEM, la quotidienne de Transistor du lundi au vendredi. Aujourd'hui, un mal assez répandu et qui progresse malheureusement, surtout dans un pays qui vieillit, la maladie de Parkinson.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM. Et vous le savez, dans cette émission, on donne la parole à toutes sortes de personnes qui vivent sur notre territoire, le Finistère qui va bien et parfois qui va moins bien, mais qui résiste, qui s'entraide, qui apporte son aide au programme de l'émission du jour, la maladie de Parkinson. Alors cette maladie, on la connaît depuis 1817, c'est la date à laquelle le docteur James Parkinson a décrit cette maladie. On sait désormais qu'elle est neurodégénérative. Dans le cerveau se produit un déficit de dopamine qui, cette dopamine elle-même, permet aux neurones de communiquer entre eux. C'est ainsi que la maladie affecte de nombreux pans de la vie des personnes qui souffrent donc de la maladie de Parkinson. C'est la principale cause de handicap moteur après les accidents vasculaires cérébraux, les AVC, et elle est aussi la maladie neurologique dont la croissance est la plus rapide au monde. En France, plus de 270 000 personnes vivent avec. Pour comprendre concrètement ce que c'est, pour savoir comment on vit justement avec, pour savoir aussi si la recherche progresse, nous recevons la déléguée du comité France Parkinson du Finistère, Hélène Bodenec. Bonjour.
Bonjour.
Alors cette maladie dont vous êtes atteinte, quels sont les impacts concrets de la maladie sur le quotidien des malades ?
Les malades, en fait, bien sûr, ressentent des symptômes qui sont très, très divers d'un malade à l'autre. Il n'y a pas deux maladies identiques. Chaque cas est différent. Mais pour autant, les symptômes sont des symptômes moteurs, des symptômes aussi cognitifs. Et il y a aussi de la douleur dans cette maladie. Donc,
le slogan d'ailleurs de France Parkinson, c'est « Libérons le mouvement ». Donc c'est d'abord
ça, c'est ça.
Des symptômes, on est un peu paralysé, on se raidit,
c'est ça. On ressent de la raideur, de la rigidité, de la difficulté à faire des mouvements, de la lenteur aussi. Moi, je sais que quand je marche avec d'autres personnes, je suis toujours plus lente. J'ai du mal à garder le rythme et c'est plus compliqué. Voilà. Et donc, effectivement, et les tremblements. Alors ça,
oui, c'est pour ça qu'elle est souvent connue, mais ceci dit, ça ne touche pas tout le monde.
Non, parce qu'en fait, on ne peut pas résumer cette maladie, bien sûr, qu'au tremblement. Et d'autant que 30% des malades ne tremblent pas et ne trembleront jamais. Donc, il y a aussi une catégorie de malades qui ne tremblent pas.
Alors, vous parliez de symptômes cognitifs, ça c'est peut-être moins connu. Genre de symptômes cognitifs?
En fait, ce sont des symptômes que l'on ignore parfois, mais tout simplement, par exemple, des troubles psychologiques comme l'anxiété, la dépression, l'apathie, la difficulté aussi à gérer ses émotions. Hein, ça, c'est vrai que c'est un problème aussi dans certaines circonstances. Et on a aussi des lenteurs de réflexion, une concentration qui est plus compliquée, je dirais. Pour faire plusieurs tâches à la fois, c'est parfois compliqué d'ordonner les choses, de dire bon, je commence par ça. On est un petit peu justement une baisse d'attention et de concentration.
Et ça, on est sûr que c'est lié à la maladie de Parkinson? Ça peut pas être juste lié à l'âge?
En fait, oui, c'est lié à la maladie de Parkinson. S'il y a d'autres symptômes qui confirment aussi qu'on est bien dans le cas de la maladie de Parkinson, bien sûr, mais ce sont bien des conséquences liées à la maladie.
Et vous-même, quand vous avez été diagnostiqué tôt, vous me disiez ?
C'est ça, j'ai été diagnostiqué à 47 ans.
Oui, donc c'est pas forcément que des personnes âgées, on va revenir là-dessus après, mais c'était quoi les signes avant-coureurs ? Enfin, qu'est-ce qui vous a fait dire que tiens, il y avait un problème ?
En fait, j'étais très très fatiguée, parce que ça aussi c'est un symptôme bien sûr important. Je dormais le week-end, presque tout le week-end, tellement j'étais vraiment fatiguée.
Ah oui.
Mon mari me faisait la réflexion en me disant, mais quand même, il doit y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas ou tu dois avoir un souci parce que tu dors tout le temps, tu as besoin de récupérer, mais quand même, ce n'est pas normal.
En plus.
Voilà.
Ouais.
Et j'avais aussi une névralgie cervico-brachiale. Donc, en fait, un problème dans le bras et j'avais très, très mal.
Une névralgie, ça fait très mal. Ouais.
Voilà. Et je n'étais pas habituée à ce genre de douleur ou de problème. Donc là aussi, c'était étrange. Et alors, surtout, ce qui me gênait beaucoup, c'est que j'avais des difficultés à l'écriture.
Ça, c'est souvent un signe qu'on, ouais, qu'on, sur lequel on insiste. C'est vrai quand, quand on, son écriture se dégrade, c'est ça.
C'est ça, c'était de la micrographie, c'est-à-dire je n'arrivais plus du tout à écrire, ou alors c'était devenu, ça ressemblait à rien, je n'arrivais même pas à me relire. Et ça, vraiment, ça me gênait beaucoup au quotidien. Donc, mon médecin traitant m'a dit, m'a dirigé vers un neurologue, pensant qu'il y avait peut-être un problème de nerfs dans le bras, enfin quelque chose d'assez classique, de dire de banal. Mais ça n'a pas été le cas, justement, parce qu'au bout de 20 minutes, on va dire...
Ah oui, rapidement.
Oui, le diagnostic était posé.
Ah oui, il n'a pas besoin de faire, il n'a pas eu besoin de faire une batterie de tests.
Non, il m'a fait faire des tests, bien sûr. Il a quand même regardé un certain nombre de choses. Il m'a posé des questions, il m'a fait écrire, il m'a fait... Voilà. Mais c'est vrai que 20 minutes ont suffi pour poser le diagnostic maladie de Parkinson à 47 ans.
Ah oui. Bon, j'imagine qu'on ne prend pas les choses très bien.
Non, pas du tout. Non, c'est vrai qu'on rentre... Il y a un avant et un après, quoi. C'est clair qu'en sortant, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me disais, c'est pas possible.
Vous connaissiez quand même un peu cette maladie?
Oui, mais vaguement. J'étais aussi comme la plupart des gens. J'avais le tremblement, des choses comme ça, mais pas plus non plus. Et surtout, je n'imaginais pas qu'on pouvait être atteinte à cet âge-là, quoi.
C'est ça. Il y en a donc des personnes jeunes qui sont atteintes. Sinon, la moyenne d'âge à laquelle on est atteint, en général...
En fait, l'âge moyen du diagnostic, aujourd'hui, est à 58 ans.
Du diagnostic.
Ouais, pose du diagnostic.
Mais il y a plusieurs phases. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lesquelles?
Parce que la pose du diagnostic, en fait, c'est pas... Alors, en fait, avant cette pose de diagnostic, il y a déjà des signes qui annoncent la maladie, mais on ne se rend pas compte. On appelle ça la phase préclinique, qui est environ de 10 à 20 ans. Avant la pose du diagnostic.
Ah oui, ça peut être long. Hein.
Ça peut être long, oui.
Et alors, c'est quoi ces signes, par exemple?
C'est des signes de fatigue, de choses qui ne vont pas, mais auxquelles on ne prête pas attention. On ne s'en rend même pas compte, en fin de compte.
Bah, et notamment pour l'écriture, c'est vrai que comme on tape de plus en plus sur son ordinateur, bien, on ne se rend pas compte de ça.
C'est ça. Et puis, vient quand même un moment où on se dit, là, il y a un souci, les signes sont de plus en plus importants, de plus en plus gênants. Et c'est là qu'intervient effectivement la pose du diagnostic. Et là, on commence à partir de cette période-là à prendre en général un traitement qui est prescrit par le neurologue. Et on annonce en effet les symptômes dont on souffre, en fait. Mmh. Alors, et cette phase-là est quand même une phase où on commence à prendre des traitements.
On va revenir sur les traitements.
Des dosages qui vont s'adapter dans le temps.
Ouais. Mais ça peut être long, la mise en place du traitement qui va bien.
Pas forcément, non, pas forcément. On peut trouver assez facilement la dose nécessaire pour être bien, pour avoir donc une vie, je dirais, normale. Mmh. Et d'ailleurs, tellement normale qu'on ne voit plus rien. Mmh. Les symptômes ne sont plus visibles parce qu'ils sont effectivement bien corrigés par le traitement.
Et alors, c'est quoi le genre de traitement qu'on prescrit dans cette phase-là?
Alors, dans cette phase-là, on prescrit de la levodopa, pardon, qui est donc la molécule, en fait, indispensable et...
Un substitut à la dopamine,
ouais,
quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est la dopamine chimique, je dirais, que le cerveau ne produit plus en quantité suffisante. Et donc, en effet, ce traitement-là permet en général de gommer, du moins pendant les premières années, tous les symptômes. En tout cas, ça ne se voit quasiment pas. Et c'est vrai que c'est une période qu'on appelle la période lune de miel.
Oui, alors, vous dites bien, c'est un traitement qui traite les symptômes. Il n'y a pas de remède, on ne peut pas guérir de la maladie de Parkinson,
soyons clairs, on peut la soigner, mais on ne peut pas en guérir, en effet. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour en guérir. Par contre, il y a quand même des traitements. Contrairement à d'autres maladies neurologiques.
Comme Alzheimer, où il n'y a pas de traitement,
Charcot.
Ou Charcot, ouais. Bien sûr. Ouais. Et voilà. Donc, cette lune de miel avec la maladie de Parkinson dure combien de temps à peu près?
C'est variable d'une personne à l'autre. Tous les malades sont différents. Moi, je sais que je suis toujours... Enfin, ça commence quand même à se compliquer un peu maintenant, au bout de 16 ans de maladie.
Ah oui, 16?
Oui. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que certaines personnes, au bout de 5 ans ou au bout de 10 ans, c'est très variable.
Le traitement n'agit plus ou plus aussi bien.
Il n'agit plus aussi bien. Et surtout, les neurones qui produisent de la dopamine continuent à se dégrader et à disparaître.
Ah oui.
Donc en fait, il y a de moins en moins de neurones dopaminergiques. Donc il faut ajuster le traitement et rajouter de plus en plus le dosage de la lévodopa.
Ah oui, mais j'imagine qu'il va y avoir des effets secondaires à ça.
C'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, effectivement, les effets secondaires peuvent être très gênants, c'est-à-dire provoquer ce qu'on appelle des dyskinésies, des mouvements en fait involontaires et non contrôlés. Et puis, c'est vrai que ça ne suffit plus non plus au bon fonctionnement de l'organisme. Donc voilà, il faut vraiment... Les médicaments ne font pas effet non plus pendant toute... Enfin, ils ont une durée d'efficacité qui est limitée, en général, à 3-4 heures. Et là, il faut renouveler très souvent. Donc
ah oui, il faut vraiment être dessus. Et il n'y a pas de pénurie de traitement comme ça? Parce qu'il y a des maladies qui sont sujettes à des pénuries, mais là, non.
Non, enfin, non, ouais. C'est pas, enfin, ça a dû arriver peut-être, mais je... C'est pas vraiment le problème.
Et donc on vous a proposé ce traitement-là, mais est-ce qu'on vous propose d'autres types de soins? Alors, c'est pas forcément du traitement, mais ce qu'on vous dit, il faut que vous fassiez du sport.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que pour nous, le médicament, le traitement, bien sûr, est indispensable, mais on met aussi l'activité physique, par exemple, régulière, au même niveau.
Ouais.
C'est aussi important de bouger, quoi. En gros, de faire quelque chose, une activité physique qui vous plaît, enfin qui voilà. Mais il faut surtout pas rester assis sur son fauteuil, dans son fauteuil toute la journée. Enfin, j'exagère, mais c'est un peu ça quand même. Il faut vraiment se bouger.
Et donc, c'est pas évident parce que à l'annonce du diagnostic, on peut par exemple faire une dépression et plus avoir trop envie. Enfin, on peut vous prescrire des antidépresseurs éventuellement quand on vous annonce que vous avez Parkinson. Ouais.
C'est sûr que c'est un choc, hein. C'est vrai que d'avoir un diagnostic comme ça, c'est pas simple, mais il faut pourtant faire face, et c'est vrai que nous, en tant que justement association France Parkinson, on est là pour aider, écouter, échanger, enfin soutenir, vous voyez, faire tout ce qu'on peut pour justement ne pas laisser ces personnes dans cette situation-là, parce que c'est vraiment délétère, quoi. Il faut vraiment pas tomber dans ce genre de soucis en plus, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment essayer de voir du monde, sortir,
bouger.
Faire de l'activité physique, bouger, faire des choses qui nous font plaisir aussi. Ça peut être des loisirs, ça peut être... Il faut se faire plaisir et essayer de vivre le mieux possible quand même.
Donc, substitut de dopamine, mouvement, enfin exercice physique, et est-ce qu'il y a aussi des prescriptions alimentaires ou autres là-dessus?
Pas particulièrement, mais par contre, il faut savoir gérer parfois son traitement avant le repas ou après le repas. Il ne faut pas trop mélanger, si vous voulez, le traitement avec le repas, parce que ça atténue en effet les effets.
Ah oui.
Ouais.
Bon. Et est-ce que là, j'imagine que c'est une maladie qui est connue depuis plus de 200 ans. J'imagine que la recherche s'est quand même penchée sur. Puis 270 000 personnes en France, c'est quand même beaucoup. Donc est-ce que la recherche s'est penchée sur maladie? Est-ce qu'il y a eu des progrès récents?
C'est vrai que la recherche sur la maladie, en ce qui concerne la maladie de Parkinson, est très active.
C'est une bonne chose déjà.
Voilà, mais la recherche, il lui faut du temps. Les résultats ne sont pas toujours... 5 ans pour un chercheur, ce n'est pas grand-chose en termes de temps. Pour un malade, par contre, c'est très très long, quoi. Donc c'est là le souci. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'essais cliniques qui sont en cours aujourd'hui en France pour essayer de trouver une solution et d'avancer. Mais c'est long. Et c'est compliqué aussi, parce que, par exemple, la dopamine, on ne peut pas l'amener directement au cerveau. Il faut vraiment, par exemple, il y a une recherche qui s'appelle la pompe de dopamine pour lutter contre Parkinson. Mmh.
C'est ça serait comme l'insuline pour les diabétiques.
C'est ça, oui. Un professeur De Vos, qui est à Lille, qui a réussi à amener de la dopamine directement dans le cerveau. Mais il faut quand même installer un cathéter relié à une pompe abdominale. Enfin, c'est lourd.
Et puis en plus, je crois qu'il y a eu des... Alors, je ne sais pas si c'est avec ce traitement-là en particulier, mais il y a eu des effets secondaires, alors, pour le coup, assez surprenants, entre guillemets, mais très, très embêtants, comme des gens qui étaient tout à coup qui devenaient... qui tombaient dans la fièvre du jeu qui devenaient hypersexuels. Enfin,
là, on est dans les effets secondaires, en effet, les effets indésirables, bien évidemment. Et c'est vrai que l'addiction est un problème.
À la dopamine.
C'est l'addiction, c'est souvent les traitements. C'est les traitements qui provoquent ce genre de problème. Et oui, là, il faut être, faut faire attention et en parler à son neurologue dès l'instant où on ressent qu'on a un comportement qui n'est pas, enfin, qui est pas normal, qui est un peu déviant même, parfois. Et il faut surtout pas rester dans cette situation-là. Il faut en parler à son neurologue qui connaît bien le problème et qui va réajuster le traitement dans ce cas-là.
Parce que c'est pas que de la dopamine qu'on peut vous donner, enfin il peut y avoir autre chose.
Alors oui, on peut aussi, si vous voulez, si le traitement médicamenteux et n'agit plus suffisamment ou qu'il est trop contraignant ou qu'il a trop d'effets secondaires, on peut essayer effectivement ce qu'on appelle la pompe apomorphine. Alors ça n'a rien à voir avec la morphine, mais c'est effectivement un système donc de médicaments que le malade reçoit de manière continue dans la journée et même la nuit, au moyen d'une pompe qui est donc installée autour de la taille qu'on peut porter et avec effectivement une diffusion sans à-coup, quoi, si vous voulez.
Et c'est là qu'il peut y avoir des accoutumances ou des...
Non, pas forcément. Non, ça peut aussi. Enfin, c'est souvent avec le traitement médicamenteux que ça peut se produire aussi.
Ah ouais.
Donc c'est non. Les effets indésirables, c'est pas forcément que le traitement médicamenteux. Ça peut être aussi tous les. Alors, il y a un autre traitement dont on n'a pas parlé, important à signaler aussi. C'est l'opération de stimulation cérébrale profonde.
Ah oui, j'allais vous demander s'il y avait de la chirurgie. Ouais. Non, c'est pas vraiment de la chirurgie, si, un peu. C'est quoi?
C'est de la chirurgie très lourde.
C'est comme des électrochocs, non?
Alors en fait, on fait effectivement. Donc c'est une opération qui dure quand même entre 6 et 8 heures. Bien qu'il y ait des améliorations en ce moment, mais c'est quand même une opération très lourde où on met effectivement des électrodes directement dans le cerveau de la personne malade. Et donc avec. Reliée à une pile, donc qui est également.
Ah oui, elles vont rester là, les électrodes.
Oui, c'est ça. Et qui permet comme ça de. Donc, de traiter aussi de
et
manière.
Ça fonctionne.
Oui, ça fonctionne.
Mais c'est pour quelqu'un, j'imagine, d'assez jeune. Enfin, on ne va pas proposer ça à des gens
c'est
âgés.
À dire
ouais.
que pour être opéré donc, et avoir ce soin-là, cette opération-là, il faut quand même avoir, a priori, moins de 70 ans, être en bonne santé. Et ne pas avoir trop de problèmes déjà par ailleurs. Quoi.
Et ça, cette stimulation, est-ce que ça ne va pas marcher toute la vie si c'est pareil, il va y avoir un...
Oui, c'est...
Ah ouais?
Oui, en fait, il faut juste recharger, recharger la pile quand même une fois par semaine pour effectivement s'assurer que ça fonctionne bien. Mais c'est à vie. Quoi,
Ah oui, et on n'a pas besoin d'être réopéré, je ne sais pas, 10 ans ou 15 ans après pour changer les électrodes ou que sais-je.
A priori, non, pas à ma connaissance.
Et c'est assez ancien cette pratique pour qu'on ait un recul suffisant
Oui, c'est ça, c'est pratiqué depuis déjà 30-40 ans. Dans la plupart des centres experts, ce qu'on appelle les centres experts, ce sont les hôpitaux en fait que l'on retrouve en région. Par exemple, pour nous, la Bretagne, c'est Rennes.
Ah oui, c'est loin.
Oui. La Loire-Atlantique, c'est Nantes. Enfin, oui. Ce sont des centres en fait où il y a vraiment une expertise pour traiter donc tous ces soucis-là et créer. Et effectivement, les opérations se font à ce niveau-là.
Mais vous, Hélène Bodenec, qui avez été diagnostiquée à 47 ans, on vous l'a pas proposé.
Mais
vous avez pas voulu.
Pour l'instant, non.
Ah ouais.
Non, parce que j'ai peur, en fait.
Oui, mais je comprends très bien. Bah, c'est une énorme opération du cerveau. Enfin bon, oui, ça c'est vraiment quelque chose qui. Mais on pourrait encore vous la proposer.
Ben oui, oui. En fait,
même si vous avez eu un traitement pendant.
En fait, j'ai rencontré déjà. J'ai eu un rendez-vous en fait au centre expert de Rennes. Et effectivement, ça a été évoqué. Je dirais que maintenant la balle est dans mon camp. C'est à moi de décider en fait de ce que je veux faire ou pas. Mais c'est vrai que malgré tout, en réfléchissant, je me dis que c'est la solution.
Mmh. Et quant au traitement, il n'y a pas eu de traitement révolutionnaire ces dernières années
En fait, si.
S'il y a eu ça, cette chirurgie déjà.
Oui, voilà, c'est ça. Et il y a toujours des avancées, il y a des choses qui se font quotidiennement. Mais bon, après, comme je vous dis, c'est vrai que c'est pas facile. La recherche demande vraiment beaucoup de temps. Et donc... On a récemment dans l'actualité, vous avez peut-être entendu parler des greffes de cellules.
Ah non.
Souches, surtout notamment au Japon, parce que le Japon recherche depuis des années une solution avec ces cellules souches. C'est pas facile, mais là ils ont avancé dans le sens où ils ont réussi à faire à utiliser donc ce système de redonner un espoir aux patients. C'est une avancée médicale majeure, en fait. Hein, et donc, mais ça concerne encore qu'un petit nombre de malades, parce que bon, il faut progressivement que ces choses-là soient bien mises en place et soient faites de manière sécurisée aussi.
Ça consisterait en quoi, en gros, vous pouvez nous expliquer. Ouais.
Oui, c'est vrai que ça, c'est donc le deuxième. C'est en fait d'implantation de cellules souches, en fait, pour effectivement.
Dans le cerveau.
Ouais.
Ah
ouais.
Oui. Ouais. Grosse opération aussi, quoi.
Ouais, des greffes de cellules qui montrent des résultats prometteurs avec une amélioration durable des surtout. Après quelques mois, quelques années, parce qu'il faut y aller progressivement aussi. Faut savoir, ouais. Mais c'est vrai que ce sont des recherches qui sont menées depuis très longtemps, et donc au bout d'un moment, ça aboutit, mais voilà.
Faut être patient. Et
ouais.
On n'a pas toujours le temps.
Non.
Et qu'est-ce que, alors là, on a parlé des traitements, mais qu'est-ce qu'on sait donc de la prévention, enfin des causes de la maladie de Parkinson? On ne sait pas grand-chose encore, c'est ça, mais...
On ne sait pas, effectivement. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai attrapé. Enfin, je suis malade de Parkinson. Effectivement, ce n'est pas non plus... Alors, ce qu'il est question aussi de dire, c'est que, effectivement, bon, plus on vieillit, c'est
oui,
sûr,
plus on a des risques de l'avoir.
Plus on a des risques de l'avoir. Après, le facteur génétique, c'est vrai qu'il peut être évoqué pour un certain nombre de cas, mais pas une grande majorité quand même. C'est à peu près 5% des cas qui pourraient...
Oui, c'est pas énorme.
Non, voilà. Par contre, je dirais, là où il est vrai que les facteurs environnementaux sont quand même, dans beaucoup de situations, mis en avant. Et c'est vrai que les pesticides, les solvants, la pollution de l'air, les métaux lourds, le manganèse, enfin, toutes ces choses-là ne sont pas bonnes pour l'homme, quoi, et pour l'humain.
On a eu un profil d'ailleurs des malades, enfin, c'est plutôt des hommes, je crois que...
Oui, 60% d'hommes pour 40% de femmes.
Et il y a des secteurs de population où c'est surreprésenté, la maladie
C'est vrai que chez les agriculteurs et les métiers liés à l'agriculture, la vigne, oui, c'est vrai que là, on retrouve quand même plus de cas de maladie de Parkinson, et il faut savoir que c'est reconnu en général en maladie professionnelle par la MSA.
Ah oui, la mutualité sociale agricole. Donc vraiment, la corrélation entre les pesticides et la maladie Parkinson commence à être assez évidente.
Oui, ouais. Tout à fait.
Et, d'accord. Et donc, vous, à France Parkinson, donc c'est une association nationale qui a donc des actions déjà nationale, qu'est-ce qu'elle fait au niveau national cette...
Eh ben, l'association France Parkinson soutient bien sûr les malades, se porte aussi, enfin, est plaidoyer aussi pour les causes, pour défendre effectivement les malades, pour par exemple, voilà, pour la conduite automobile, pour en effet permettre donc encore à certaines personnes, lorsqu'elles sont en situation de pouvoir conduire, de valider par exemple.
Ah oui, parce qu'on peut vous interdire de conduire si vous êtes trop malade. Quoi.
Parce qu'effectivement, il faut faire quand même, faut quand même rencontrer un médecin agréé pour valider en fait la possibilité de conduire sans risque pour soi et pour les autres, bien sûr. Donc voilà. Et l'association France Parkinson est également reconnue d'utilité publique, donc peut agir aussi pour le bien-être des malades, le droit des malades. Ils font également beaucoup de... Et donc, ils sont, bien sûr, ils donnent beaucoup de fonds à la recherche.
Ils collectent
des fonds. Ils soutiennent la recherche.
Ouais,
ils collectent. Et en effet, bon, ils sont très présents auprès des représentants des gouvernements. Enfin,
du lobbying, tout
du
simplement.
Lobbying, ouais, voilà.
Et localement, qu'est-ce que fait le comité Finistère?
Le comité du Finistère, en fait, organise des activités physiques, essentiellement. Là, on a deux partenariats pour le ping-pong. Hong Kong, par exemple, qui a beaucoup de succès, en fait, donc auprès du, de, donc un club du Nord Finistère et un club du Sud Finistère. Il n'y a pas de raison de
pas
de jaloux. Donc, le Nord Finistère, c'est le club de Saint-Divy, je ne sais pas si vous connaissez. C'est tout près de Landerneau, donc voilà. Et c'est vrai qu'on a à peu près 20 personnes qui sont inscrites.
Ah oui.
Et oui, qui aiment venir donc jouer au ping-pong le mardi après-midi.
Ah ouais.
Et après la séance, on a souvent donc un petit café avec la partie conviviale et le lien social indispensable d'ailleurs.
Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est aussi le rôle de des associations comme ça.
Oui.
Je crois que vous allez proposer du foot en marchant, c'est ça?
Oui, comment vous savez
J'ai vu ça parce que je suis allée sur le site internet.
Oui, donc c'est tout frais. Ça. Je ne sais pas trop si on va arriver à faire une équipe, mais enfin, moi j'y suis allée effectivement la semaine dernière. J'étais la seule fille parmi tous les...
Oui, mais c'est pas grave, c'est mixte.
J'étais pas non plus bon.
On fait du foot, mais on court pas. Enfin,
oui,
on
c'est
marche.
Ça, c'est
bon,
ça.
Okay.
Donc ça, ça pourrait être aussi une activité en effet intéressante. Donc voilà, on a la gym aussi.
Oui.
Voilà, à Concarneau. Donc là, on a un groupe de gym qui adore se rencontrer, se retrouver, parce que c'est le côté aussi convivialité.
Et puis alors, j'ai vu aussi que vous lanciez des cafés pour les gens qui ont moins de 65 ans et qui sont diagnostiqués.
Oui, parce que c'est vrai que d'être diagnostiqué entre guillemets jeune, enfin c'est vrai qu'au moins être pendant qu'on est encore en âge de travailler, ça c'est encore une autre problématique à gérer. Parce que c'est vrai que est-ce qu'on pourra travailler jusqu'au bout, dans quelles conditions, voilà, c'est compliqué. Et puis c'est vrai que de parler de maladie de Parkinson à son employeur, c'est pas simple, c'est pas une démarche facile à faire. Donc là, il faut un accompagnement, il faut également aider les personnes pour qu'elles puissent trouver des solutions et voilà, et être quand même rester dans le monde du travail peut-être le plus longtemps possible. En étant mi-temps, enfin, oui, avec des aménagements de poste, des choses comme ça.
C'est important. Et puis, j'imagine que vous aidez aussi les proches, même si, non, enfin, le comité Finistère.
Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Oui, les aidants sont des personnes, effectivement, qu'il faut soutenir et qui ont aussi des difficultés, bien évidemment, lorsqu'on accompagne un conjoint ou un parent. Oui, c'est pas simple. Hein. Donc, il faut que les aidants puissent aussi, entre guillemets, vider leur sac par moment. Et c'est vrai que de se rencontrer autour d'un groupe de parole, c'est quand même très important.
Eh bien, merci beaucoup, Hélène Bodenec. On peut retrouver l'association France Parkinson et le comité Finistère sur le site internet, franceparkinson.fr. Merci.
Merci à
vous. Au revoir.
Merci.